Chapitre 21. Le soleil n'était pas levé quand la voix de Julien Noëlé éveilla le valet qui dormait au-dessus de la boulangerie. « Ohé ! Descends lier la grande paire de bœufs et dépêche !» L'homme fut étonné, car au mois de mai, la saison des labours est loin, celle des charrois n'est pas commencée, et quant aux foires, outre que le métayer n'y allait plus régulièrement comme autrefois, il n'en avait point été question la veille. Or, vendre une paire de bœufs, celle-là surtout, c'est une affaire grave qui se discute et se mûrit. Le métayer n'avait parlé de rien de pareil. Pourquoi donc en juguer les bêtes? Le valet raisonnait ainsi tandis qu'il se vêtait à la hâte et descendait, les yeux lourds, l'échelle qui conduisait à sa chambre. Il trouva son maître sur la chaussée pavée qui coupe en deux l'étable, occupé à considérer, les bras croisés, ses six bœufs de labour qui tournaient la tête vers lui et demandaient d'un mugissement bref la créchée du matin. Julien Noëlé paraissait sombre. Mais n'était-ce point l'ordinaire à présent? Le valet n'osa rien demander. Il alla prendre le long du mur le joug de cormier poli, le posa sur la tête des deux plus beaux bœufs, Vermet et Fauveau, tachés de blanc et de roux, haut d'échine, large de croupe, et, tandis qu'il serrait la pièce de bois au ras des cornes avec la courroie, il remarqua que deux larmes coulaient sur la joue creusée du métayer. Quand toute la lanière fut enroulée, il décrocha l'aiguillon et attendit un ordre, appuyé sur l'épaule énorme de Vermet. Julien soupira et dit « Tiens, mon pauvre gars, regarde-les bien. Tu n'en liras pas souvent fois dans ta vie d'aussi beau que cela. » « Ça se peut, » répondit le valet. « Ils font joliment la paire, » reprit le métayer. « C'est la même robe et le même âge. Vermet serait peut-être un peu plus fort. Jamais ils n'ont refusé de tirer, jamais ils n'ont été malades. Pourtant, il y a eu des journées dures. « Pour ça, oui, patron. Ce n'est pas que je méprise les autres. Chauvin et Rouget sont de bonnes bêtes aussi. » Caille et Nobier feront leur devoir tout comme d'autres quand ils seront plus vieux. Mais ceux-là, je les aimais. « Vous allez donc les vendre que vous les regrettez ?» demanda l'homme. « Je vais où je veux, » répliqua sèchement le métayer. « Mène-les dehors et prends la route. » Le domestique passa une blouse par-dessus ses vêtements, car il bruinait, et poussa les bœufs hors de l'étable. Au fond, que lui importait ? Vendre une paire de bœufs, en racheter une autre, être ici, être là, suivre les chemins ou faucher, c'est toujours obéir et gagner sa vie. Son long visage, un instant étonné, reprit bientôt sa placidité habituelle. Sans plus rien dire ni rien penser, il se mit au pas de ses bêtes à la hauteur de leur poitrail, sifflant deux notes connues d'elles pour les encourager. Le métayer s'en allait derrière, appuyé sur son bâton d'épine roussi qu'une cordelette de cuir rattachait au poignet. Le plus souvent, il baissait les yeux. Quand il les levait et qu'il apercevait les croupes fauves de ses bœufs préférés, leurs poils bien tachetés, leurs muscles balancés de droite et de gauche par la cadence de la marche et d'où s'élevait un souffle blanc dans l'air glacé du matin, un soupir lui gonflait la poitrine. Il se remémorait les profonds labours qu'il avait faits avec Vermet et Fauveau, le jour où il les avait achetés, à la foire de Sainte-Christine, avec Jacques, toutes les occasions qui s'étaient offertes de les vendre à gros bénéfices. Mais il y tenait trop. C'était sa joie à lui de contempler son harnais au complet, ses six bœufs attelés ensemble. Peut-être en était-il puni, car il s'était souvent enorgueilli à leur endroit. Les vendre et surtout ne pas les remplacer, quelle honte! Quel chagrin de suivre pas à pas cette richesse de la genivière qui s'en allait! Et la cause? La cause, c'était toujours la même. Les métayers du fief Sauvin et d'au-delà, qui se rendaient à la foire de Beaupréau, lancés au trot de leur carriole, le saluaient d'un mot. Les cocognées, marchandeuses et de volailles, sortaient la tête des toiles tendues de leurs voitures, au-dessous desquelles se balançaient des paniers à claire-voie. Des messagers le dépassaient en levant leur chapeau. Il ne répondait rien, ne regardait pas même. Il continuait l'examen de son malheur. Le matin même de la mort de Jacques, il avait reçu une lettre de Paris. Pierre, cette fois, n'avait écrit ni à sa mère ni à ses sœurs. Il disait à son père « Vous me devez une somme que vous retenez sans droit. Il y a 7 mois, je vous l'ai réclamée. Jamais je n'ai eu de réponse. Aujourd'hui, je ne peux plus attendre. Mon prêteur connaît ma créance contre vous. Et si je ne lui ai pas versé 1500 francs dans 8 jours, vous serez poursuivi par lui. Je ne puis l'en empêcher. » Au premier moment, il s'était emporté, il avait répété qu'il ne paierait rien, qu'il avait dépensé déjà en faisant instruire son fils plus que ne valait l'héritage de l'oncle de Montrevaux, qu'il n'avait pas d'argent au surplus. Ces 1500 francs, ils étaient dans la métairie depuis des années, et pour les en séparer, il fallait vendre des bêtes ou des arbres, déchoir, se priver encore. Non, il laisserait plutôt s'accomplir la menace. On verrait si ce fils indigne oserait aller jusque-là, poursuivre son père, l'amener en justice. Pendant 24 heures, Julien Noëlé s'était tenu à cette résolution violente. À la réflexion, cependant, il avait cédé, car il la devait, cette part d'héritage. Il avait, dans son esprit, désigné Vermet et Fauveau pour acquitter les dettes de Pierre, et il les menait maintenant au marché ses bons bœufs. Comme cette humiliation lui pesait de se sentir vaincu par son fils et contraint d'obéir à la loi, puissance de second ordre à ses yeux, et subordonnée jusque-là à son autorité domestique. Il se trouvait arrivé au bas d'une petite côte qui se dresse à peu de distance de Beaupréau. Vermet et Fauveau montaient la pente de leur même allure forte et pacifique. Il les regarda encore sous le soleil levant, superbes, roux comme des châtaignes mûres, et songea en lui-même. Il vaut mieux que Jacques soit mort. Il aurait eu trop de peine. Puis, connaissant que la ville était proche, il tira sa courte pipe de son gousset et l'alluma pour se donner contenance, selon la coutume qu'il avait toutes les fois qu'il arrivait à la ville. Le valet, content de voir les toits monter dans le ciel plus clair, lui qu'aucun souci ne hantait, s'était mis à chanter une chanson. Noëlé le rejoignit, et tous deux, flanquant les bêtes de chaque côté, firent leur entrée dans Beaupréau. Les rues étaient pleines de blouses bleues et de coiffes blanches en mouvement vers la place du marché. De toutes parts, cette foule, avec la continuité régulière des ruisseaux, coulait et se déversait dans le vaste champ en pente, déjà encombré d'un tel grouillement d'hommes et d'animaux qu'on n'apercevait plus la glaise jaune du sol. Les nouveaux arrivants entraient quand même dans cette masse, y produisaient un remous d'un instant, s'arrêtaient et se fondaient avec elle. Le valet de la Genivière, quand son tour fut venu, ne fit point autrement. Il saisit Vermet par une corne, et, avec un petit sifflement qui leur disait d'être sages, il poussa ses bœufs en avant. Ils n'allèrent pas loin. Un gros marchand de la Villette fit un signe à Julien Noëlé, et le valet, posant l'aiguillon en travers, tint ses bêtes immobiles. Ce n'était pas la première fois que Julien Noëlé vendait les bœufs pour la boucherie. D'habitude, il ne pensait guère au sort prochain qui les attendait. Mais cette fois, il vit en imagination le maillet de l'assommeur s'abattre sur les toiles blanches que Vermet et Fauveau portaient tous deux au front, et, au moment de conclure le marché, il hésita. « C'est pour les tuer que vous les voulez ? » demanda-t-il. « Pas pour autre chose, » dit le marchand en riant. « Croyez-vous que je les achète pour leur faire des rentes ?» Il fallait cependant bien se résigner. Julien frappa dans la main de l'acheteur et se tournant vers le domestique. « Toi, dit-il, tu as entendu. Dans 2 heures, tu les livreras à l'entrée de la route du Pin. Après, tu pourras aller à tes affaires si tu en as. Voilà 40 sous pour ta dépense. » Le valet fut stupéfait de voir son maître vendre ses bœufs sans en racheter d'autres et lui donner congé de si bonne heure. Les yeux ronds, sans bouger, il semblait attendre la suite de cet ordre, évidemment incomplet. « Touche donc les bœufs, saprega, et ne me regarde pas comme ça, cria le métayer, d'un ton qui mit fin aux incertitudes du valet. Et brusquement, il se retourna, entraînant le boucher hors du champ de foire pour terminer l'affaire et recevoir le prix au cabaret, tandis que ses deux grands bœufs reculaient, les cornes basses, à travers la foule. Julien Noëlé n'était pas buveur. D'ordinaire, il ne faisait que passer dans les auberges. Il s'y attarda ce jour-là, d'abord avec le marchand auquel il venait de vendre ses bœufs, puis avec des métayers, des gens de toutes les paroisses des Mauges qu'il voyait rarement et qu'il avait seulement coutume de saluer d'un signe de tête. Il leur offrait à boire, parlait haut et beaucoup avec eux, sans jamais traiter d'une affaire quelconque et sans quitter la place où il avait déjeuné. Les anciens du fief ou de Villeneuve, qui le voyaient ainsi à la même place, boire et fumer comme pour s'étourdir, lui taciturne et sobre entre ceux de sa race, disaient entre eux « Croirait-on que c'est lui ? Depuis la mort de son gars, on ne le reconnaît plus. » Il avait en effet bien du chagrin, le métayer de la Genivière, et il buvait pour oublier. Vers le coucher du soleil seulement, il sortit de l'auberge et, au lieu de prendre la route du fief, se rendit chez son notaire, qui demeurait dans le milieu de la ville. Il n'était pas ivre, mais il commençait à se sentir la tête lourde et les jambes molles. La vue des panonceaux de l'étude le remit un peu d'aplomb. « J'apporte de l'argent, » dit-il dès qu'il fut entré dans le cabinet à rayures noires et vertes où tant de ses pareils avaient défilé depuis le matin. « De l'argent, maître Noëlé, » dit le notaire. « Et pourquoi ?»« Pour envoyer. »« Ma foi, je ne vous connaissais pas de dette. » « Ce sont les fils qui en font, » répondit le métayer. Sans s'expliquer davantage, il chercha sa bourse de cuir, prit un à un les louis d'or et les rangea sur le bureau, par piles de cinq, se défiant de lui-même et recomptant chaque pile. Après la septième, il s'arrêta et dit gravement « Voilà Vermet. » Il se remit à compter. À la quatorzième, il dit encore « Voilà Fauveau. » Enfin, lorsque, sur l'acajou fané du meuble, les 1500 francs furent disposés en petites tours d'or lentement extraites de la vieille bourse et lentement abandonnées par la main qui les édifiait, « Voilà tout l'héritage de l'oncle Thomas de Montrevaux, » conclut le métayer. « Je me rappelle l'affaire, » dit le notaire, « le legs était fait à votre fils. »« Oui. »« Et c'est à lui qu'il faut envoyer l'argent ?»« Oui. » Mais je voudrais que vous lui écriviez en même temps. Facile, maître Noëlé, très facile. Je lui dirai... Vous lui direz que maintenant qu'il est payé, il n'y a plus rien de commun entre lui et moi. Plus rien, vous entendez? Très bien. Vous lui direz encore que j'ai défendu à sa mère et à ses sœurs de lui écrire et que ces lettres, je ne les recevrai plus ni personne chez moi. « Vraiment, maître Noëlé, » dit le notaire, qui était un homme conciliant, « vous me donnez là une commission. »« Vous ne voulez pas la faire ?» interrompit le métayer. « Je sais que votre fils vous a causé des déceptions. »« Vous ne voulez pas, alors ?» répéta Julien Noëlé, en avançant la main pour reprendre son argent. « Si vous y tenez absolument, eh bien, faites-la. » Les raisons, voyez-vous, ça me regarde. Je suis le père. » Le notaire connaissait bien sa Vendée. Il reconduisit le client jusqu'à la porte et le laissa partir sans renouveler l'objection. Julien Noëlé serra autour de son poignet la cordelette de son bâton, traversa quelques rues de la ville et, dans le soir tiède, reprit la route de Fief-Sauvin. Il marchait à longues enjambées. C'était l'heure où les derniers métayers ou marchands revenaient dans leur carriole avec femmes, enfants et marchandises. En apercevant le maître de la Genivière, ils ralentissaient le trot de leur cheval et proposaient à Julien de monter. Mais il se sentait le sang tout brûlant et refusait, espérant que la marche le calmerait. « Non, disait-il, une autre fois. »« Tu as vendu tes grands bœufs, dis. » Oui. Et tu n'en as donc pas racheté que tu t'en vas comme ça ? Cette question, 10 fois répétée, exaspérait le paysan. Quand il fut rendu près du moulin de Haute-Brune, il quitta la route afin d'éviter de nouvelles rencontres. Son dessein était de rentrer à la Genivière par les prés. La nuit approchait. L'ombre avait saisi la vallée. Seules les hauteurs, à droite et à gauche, gardaient une aigrette de lumière, un dernier champ de blé, un bouquet d'arbres qui voyaient encore le soleil en aller. Bientôt toute flamme disparut et la brume, venue des eaux profondes, épaissit le crépuscule autour du paysan. Il avait à peine laissé 100 mètres derrière lui le moulin dont la roue faisait son bruit de plongeon, qu'il s'arrêta, stupéfait, épeuré. Sur une de ces grosses pierres grises roulées au milieu du courant de l'Èvre, autour desquelles l'eau grésille, un vieil homme était assis, les jambes pendantes. Peut-être n'était-ce que le meunier qui tendait ses lignes à anguilles, mais Noélé, à plusieurs signes, crut reconnaître son grand-père, mort depuis 27 ans, un bonhomme rude comme l'ancien temps. Comment douter ? N'était-ce point son air, ses cheveux blancs comme neige, sa veste aux basques écourtées, ses guêtres brunes montant jusqu'aux genoux, et même le mouvement de sa tête qu'il ramenait vers la poitrine quand on lui demandait de se souvenir ? Car il avait fait toute la grande guerre de 1793, l'aïeul, couru les chemins de nuit et de jour. Il avait reçu 3 blessures, passé la Loire avec l'armée en déroute et tout vu, tout connu, tout souffert. Il racontait cela longuement aux veillées. Pourquoi revenait-il ? Comment se trouvait-il là, sur le passage de son petit-fils, à cette distance habituelle des fantômes de nuit qui ne sont jamais ni près ni loin ? Julien eut peur qu'il ne demandât des nouvelles de Pierre et se glissa, courbé, vers la haie de saule qui filait le long du pré à sa gauche. Mais il en était encore à 20 pas au moins quand un son de voix lui arriva par-dessus la rivière et par-dessus les cépés. « Tu es bien pressé, Julien !» Le respect et la peur le clouèrent sur place. Jamais il n'avait parlé couvert devant l'aïeul. Il ôta son chapeau et attendit un peu. Les oreilles lui sonnaient comme si tous les grillons du pré les eussent habités. La voix reprit. « Tu as vendu tes bœufs, Julien, et tu n'en as pas racheté d'autres ? Ils étaient donc trop chers ?» Il percevait distinctement les paroles, mais il ne voyait plus qu'une forme indécise à cause de la distance et surtout des ondes de brume que le vent charriait entre la rivière et lui. Il répondit « Non, grand-père, ils n'étaient pas trop chers. C'est pour payer les dettes du fils que j'ai vendu mes bœufs. Tes deux meilleurs ? Oui, certes. » Et la voix se fit profonde pour dire « C'est grande pitié, mon pauvre Julien, des enfants d'aujourd'hui. Nous savions mieux vivre autrefois. 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 » Toutes sortes d'échos des bois, des criques de lèvres, des coteaux noyés d'ombre répétèrent « Autrefois, autrefois, autrefois. » Et le métayer vit se lever un bataillon de soldats vêtus de blanc avec une cocarde au chapeau, des canons de fusil, des faux redressés, au-dessus de leur tête jetaient un éclair pâle. Ils marchaient au pas de charge, à l'assaut d'un rempart immense dressé là-bas dans la nuit grise. Le grand-père était en avant. La terre tremblait sous leurs gros souliers, les branches craquaient dans les buissons, les roseaux pliaient sur leurs rives et la colonne avançait toujours en rangs pressés. Julien les reconnaissait presque tous pour les avoir vus dans sa jeunesse, ces anciens vénérables, hommes des jours finis, débris de l'antique Vendée glorieuse. Il le reconnaissait aussi et chuchotait entre eux quelque chose qu'il n'entendait pas, d'un air de pitié. Et ils passaient. On les eût dit chassés par l'orage, tant ils couraient vite, le grand-père toujours devant, très loin, et qui continuait de fixer l'endroit où Julien s'était arrêté, les pieds dans l'herbe haute, au milieu des prés enveloppés par la nuit, pleurant de honte.